Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on a une émission un peu particulière puisque nous allons accueillir une autrice, une auteure, Ingrid Astier. Bonjour Ingrid.
Bonjour.
Alors, c'est une épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui nous a rappelé et qui nous a révélé donc cette auteure et à travers un ouvrage. Alors, est-ce qu'on dit Théa Huppo?
Alors, ça se prononce OU, les U, donc c'est Théa Huppo.
Théa Huppo.
Voilà.
Donc, voilà. Alors, c'est donc à travers un ouvrage, Théa Huppo, Le souffle de la vague, que nous ne pouvions résister à l'envie d'en parler. Alors, des amis surfeurs m'ont rappelé qu'il s'agissait d'une vague mythique, qu'elle était connue de tous les surfeurs, mais que peu l'avaient pratiquée à cause de sa dangerosité, donc on en parlera tout à l'heure. Et c'est ainsi que, du nom d'un spot du bout du monde, officialisé par les Jeux Olympiques, enfin qui avait quand même, qui était connu, mais du monde du surf, hein, puisque c'est là que se déroulaient souvent les épreuves mondiales. Enfin, de responsabilité mondiale des Jeux Olympiques, du surf. Donc, c'est par les JO que nous découvrirons donc cet auteur et que nous allons faire un petit retour en Polynésie, là où nous avions fait nos premiers apprentissages d'une ressource sacrée, le corail. Alors, Ingrid Astier, Théa Huppo, Le souffle de la vague est votre 5e ouvrage. On sent, en lisant ce livre, que vous livrez quelques passages, dont vous nous lirez quelques passages tout à l'heure, que vous connaissez et que vous aimez la Polynésie. C'est du terrain que naît ce livre. Vous êtes agrégée de lettres, normalienne, vous décrivez le PK0, c'est-à-dire le lieu, finalement, du zéro kilomètre, le bout du monde, hein, la vague de Théa Huppo. L'atmosphère de ce petit district, comme si vous y étiez né. Vous connaissez bien la Polynésie ?
J'ai eu la chance d'être invitée en Polynésie la première fois en 2010 par Lire en Polynésie et par l'association des éditeurs de Tahiti.
Et alors ?
Et ça a été la rencontre au bout du monde. Et depuis, c'est une histoire de fidélité puisque j'y suis retournée plusieurs fois en fait en 2015, en 2018 et toujours cette fois-ci pour le projet du roman Théa Huppo, Le souffle de la vague.
Et finalement, c'est ce que vous faites pour tous vos ouvrages ? Vous y passez autant de temps ?
Écoutez, moi j'ai une conviction qui est que quitter ma chaise et observer le vivant, c'est ce que je dois à mes romans et à mes lecteurs également. Parce que bien sûr qu'aujourd'hui, avec Internet, on a les moyens de recréer un ailleurs, de l'imaginer. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que si on fait ce travail depuis soi, c'est un travail qui va manquer de chair et de saveur. Alors pourquoi se priver de l'humain ? Pourquoi se priver de la force des lieux et se fier à des écrans? Moi, je fais plutôt le pari de la réalité pour ensuite me donner tous les moyens d'imaginaire.
Alors, est-ce que vous êtes surfeuse ? Parce que, en fait, quand on lit votre ouvrage, on fait corps un peu avec la mer et la vague, qu'on appelle ce diable en robe d'écume, tel que vous la nommez. Comment elle s'est imposée à vous ? Est-ce qu'on peut tomber amoureuse d'une vague ?
Oui, assurément. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Ça a commencé avec un livre. Comme quoi, il faut se méfier des livres, vous voyez. Moi, je suis tombée amoureuse de la vague de Théa Huppo grâce au livre de Tim McKenna, ce grand photographe de surf, en fait, qui était un livre paru juste en 2010, quand je suis allée en Polynésie. qui s'appelait Te Ahupo, la vague mythique de Tahiti. Et quand j'ai découvert ce livre et que j'ai feuilleté donc à Papeete, j'ai déjà ressenti que j'avais une attraction très très forte pour cette vague, parce que nager fait partie de mon ADN. Je suis reliée à l'eau depuis la Loire près de laquelle je suis née, où j'ai grandi, parce que je suis née en Auvergne. Et donc il y a toujours eu vraiment cette aimantation très forte de l'eau. Et après, quand j'ai découvert cette vague, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à Te Ahupo, ce qui n'est pas si simple, parce que c'est sur la presqu'île de Tahiti, et que c'est déjà une petite expédition d'aller au bout de la presqu'île, parce que c'est pas un système de bus aussi simple qu'en métropole.
Oui, tout est un peu compliqué.
Non, alors je dirais pas que tout est compliqué, et c'est bien plus joli que ça, c'est que tout est aventure. Et on a perdu aussi ce côté aventure, parce que finalement, il n'y a rien de plus triste que quand c'est simple, vous voyez. On veut nous faire croire que le bonheur est dans la simplicité, mais de prendre un bus et de s'arrêter à une station, c'est pas comme ça qu'on vit de grandes aventures.
Alors vous avez fait une plongée aussi.
Oui, absolument. C'est ça, vous voyez, ça fait partie des questions que se pose un romancier. C'est jusqu'où on peut aller pour l'imaginaire. On a une vague qui est extrêmement dangereuse, parce que sous cette eau translucide, paradisiaque, se cache vraiment l'enfer. Parce qu'on a en fait une herse de corail qui vous râpe comme de la noix de coco. Donc vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller sur les flancs de cette vague en bateau, se laisser comme ça, se laisser gagner de loin? Ou est-ce qu'il faut vraiment aller faire corps avec cette vague? Et moi, je pense que la réponse, elle est simple. Si votre livre, il s'appelle La Vague, et le souffle de la vague, eh bien, vous êtes obligé de passer par cette épreuve. Donc oui, je suis allée nager dans cette vague grâce à un surfeur extraordinaire qui s'appelle Michael Vautor. Et Michael, en fait, c'est quelqu'un qui surfe la vague en longboard. Donc aussi, il y a un côté, vous voyez, un peu old fashion, un peu désuet, un peu old school, et ça c'est aussi ce qui donne l'essence des personnages intéressants.
Et alors finalement vous êtes laissé prendre par cette mer, hein, au cours de cette plongée, et vous avez regardé la vague par en dessous.
Exactement, et ça c'est une révélation, parce que c'est pas une contemplation, vous n'êtes pas au musée, vous voyez, tout bouge, tout est dangereux, il faut bien calculer ses apnées, il faut aller se planquer dans des canyons qui sont sous la vague, qui ont été creusés par de l'eau douce auparavant, hein, il y a longtemps. Et ça, c'est une vision, finalement, si on réfléchit, c'est la vision de l'écrivain, de voir l'envers du décor, l'envers des choses, de ne pas hésiter à retourner la réalité pour la considérer sous un angle différent. Donc quand vous allez nager dans cette vague, la première chose qui vous impressionne, c'est la puissance, c'est la force. C'est une vague qui a une puissance colossale. Elle a un élan de 8000 km sans s'arrêter depuis l'Antarctique. C'est vraiment une divinité qui arrive, c'est pas une vague. Et donc c'est un rouleau compresseur. Quand cette vague passe, elle vous plaque en fait rien que par sa masse.
Très bien. Alors, finalement, vous nous faites aimer la Polynésie aussi par l'intérieur, hein, par sa dimension. Finalement, la Polynésie, c'est un peu le paradis sur Terre, hein, avec la mer. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi un peu le jardin d'Éden, quelquefois. Oui. Et puis, vous avez su nous emmener finalement dans cet équilibre entre la Terre et la mer. Hein, à un moment, on quitte la mer pour le vallon de la cascade Tupé. Toupé,
exactement, voilà. Oui, qui existe vraiment, hein. Tous les lieux existent dans le roman.
Et alors là, c'est luxuriant, c'est comment?
Là, on est, pour le coup, on est dans la carte postale. Un écrivain, à mon avis, se méfie toujours de la carte postale, parce que la carte postale, c'est quelque chose qui est lisse, qui finalement est une réalité tronquée. Et tout l'avantage du roman, c'est de rendre son coffre à un décor, c'est de restituer toute la palette émotionnelle, la palette aussi des gens, bien sûr. Hein. Et là, c'est quand vous rencontrez un Polynésien, c'est moi ce qui me marque, c'est l'équilibre entre la terre et la mer. C'est ce que vous disiez, c'est que le vrai Polynésien, c'est quelqu'un qui est autant tourné vers la terre que vers la mer.
Et c'est rare chez les insulaires, parce que, par exemple, si on est en Guadeloupe ou en Martinique, en fait, on est très, très peu tourné vers la mer. Si on est en Bretagne, on est très peu tourné vers la mer aussi, en dehors des professionnels.
Oui, et vous avez raison, le Polynésien, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a une connaissance de l'océan qui est amoureuse. Ce n'est pas une connaissance touristique, il y a un vrai amour des poissons. Il y a une façon de nommer les poissons qui dépend de leur taille. Ça ne va pas être le même nom si le poisson est petit, moyen ou grand. Vous voyez, déjà, ça, ce sont des facteurs linguistiques qui montrent l'attachement à l'océan. Et il y a une connaissance de la mer qui, en fait, tisse un lien très, très fort à la nature. Et on comprend après bien mieux ce mot très important pour le Polynésien, qui est le mana, qui est cette puissance spirituelle, en fait, qui règne, et où les ancêtres aussi ont une place permanente.
Donc, on est en permanence dans un espèce de panthéisme, c'est-à-dire, en fait, tout est Dieu.
Oui, et surtout, tout est à sa place si on sait être à l'écoute de la nature. Donc déjà, les critères entre le bien et le mal deviennent plus mobiles.
Alors bien, pardon.
Cette vague, justement, c'est une vague qui est extrêmement dangereuse, mais aussi qui est sacrée, qui est tellement belle qu'on ne peut qu'avoir un respect total.
Alors, bien sûr, je vous ai entraîné un peu sur les éléments naturels, vers la mer, vers la terre. Mais bien sûr, il y a dans ce roman des personnages extraordinaires qui correspondent à vos rencontres. Vous avez sans doute envie de parler peut-être de Birdie, par exemple, qui est un personnage fantastique.
Ah oui, alors Birdie, la plupart de mes personnages ont bien sûr été initié par des personnes réelles. Ça ne veut pas dire que c'est du copier-coller, parce que tout le travail de l'écrivain, ensuite, c'est d'en faire une matière de cette inspiration. Mais je trouve qu'il ne faut jamais mentir sur l'esprit d'un lieu. Et l'esprit d'un lieu, ça passe par les paysages et les gens. Donc il faut faire tout un travail de terrain, effectivement, pour comprendre cette vague, pour comprendre le vallon, pour comprendre les cascades, comprendre aussi toutes les légendes qu'il y a dans ces vallées, des légendes très puissantes. Et les gens, ensuite, on a passé beaucoup de temps à les écouter, autant les pêcheurs que les surfeurs, pour comprendre ce rapport à l'océan. Et Birdie, il est inspiré par quelqu'un qui existe vraiment, qui est Baptiste Gossin, qui, en fait, était un windsurfer. C'était un des plus grands windsurfers français. C'était quelqu'un qui passait sa vie dans l'eau et qui a été, en fait, brisé en deux, littéralement, par la vague de Te'ahupo, parce qu'il a connu ce qu'on appelle de façon redoutable l'effet scorpion. C'est-à-dire que la vague l'a vraiment retourné et qu'elle, ensuite, eh bien, elle l'a mis dans un fauteuil qu'il n'a plus quitté depuis. Et ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est qu'il n'en veut pas à la vague et qu'il retourne sur cette vague maintenant en jet ski pour accompagner les surfeurs.
D'accord. Et donc, il fait partie des gens qui protègent les surfeurs.
Oui, exactement, et qui leur permettent aussi de tracter, d'aller sur les vagues, tracter en jet ski pour pouvoir défier les hauteurs et surfer des vagues qui ne seraient pas surfables sans en fait cet intermédiaire.
Avant que vous nous fassiez un peu vivre le rythme de votre écriture, et bien sûr, c'est vraiment un ouvrage que je conseille à nos auditeurs, j'en reparlerai à la fin, mais il y a, j'ai envie d'évoquer une petite anecdote, il y a dans ce roman une histoire, un défi entre un surfeur local qui est humble, mais qui est fort comme les Polynésiens, et puis un homme venu d'ailleurs, qui est arrogant, un peu frimeur, voilà.
Et alors, oui, ça part d'une vraie histoire, ça, hein. Ça part vraiment d'un surfeur qui était arrivé sur le spot de Te'ahupo et qui avait jeté son mégot dans l'eau, c'est réellement, avant d'aller surfer. Et là, donc, Michael Vautor, qui l'avait mené sur la vague, il s'était dit, tiens, la vague, en fait, elle a un détecteur d'humilité et elle va rendre justice.
Et vous dites, la vague lavera son orgueil.
Oui, exactement, oui. Et c'est ça, hein, j'adore cette phrase de Michael, qui est une vraie phrase de Michael, qui dit que la vague a un détecteur d'humilité. Je trouve ça extraordinaire. Et généralement, en fait, elle ne se trompe pas et ce surfeur avait fini complètement nu, en fait, sur le récif avec toute sa combinaison qui avait été arrachée.
Bien. Alors, finalement, je voudrais parler d'une toute petite anecdote, puisque la semaine dernière, on a eu deux jeunes femmes qui ont gagné les épreuves mondiales. Donc, une qui est déjà, Vahiné Fierro, qui est déjà connue puisqu'elle est vice-championne du monde. Et puis, une petite jeune fille, une petite gamine de 13 ans, Tia Zebrowski, qui effectivement risque de donner un peu à retort aux surfeurs qui sont des surfeurs d'ordre mondiaux et qui vont s'affronter donc lors des Jeux Olympiques. Alors, parlez-nous donc un petit peu de Hiro, dont finalement qu'on va retrouver sur la vague grâce à votre lecture. Donc, Hiro est un des personnages également du récit.
Oui, c'est un des héros. C'est un. En fait, lui, il représente cette position des surfeurs du spot qui sont nés à quelques mètres de la vague, qui ont ouvert les yeux sur le monde en l'ouvrant également sur cette vague, donc qui ont toujours fait partie de cet environnement. C'est un local. C'est quelqu'un qui connaît autant la vague que la vallée. Cette vallée, elle est inspirée par la vraie vallée de Pévalévi. Quelqu'un qui a toute une collection de houroux, d'arbres à pin. Donc vous voyez, il y a vraiment ce travail de mémoire aussi et de respect, hein, de ce qu'on appelle le fénois aïré. Donc c'est là où la route s'arrête, là où la route goudronnée s'arrête, hein, face à la vague. Et donc Hiro, il incarne tout ça, il incarne cette mémoire du village de Teahupo, un très grand respect pour la vague. Il ne va jamais la surfer sans en fait lui rendre hommage avant, sans rendre aussi hommage au rhinocéros qu'il voit, parce qu'on dit toujours qu'un des repères pour être bien placé par rapport à la vague, c'est ce rhinocéros.
Donc c'est un mot, hein, il faut expliquer, parce oui. que c'est pas évident, il faut avoir lu effectivement votre ouvrage pour découvrir que rhinocéros, c'est une des montagnes qui permet aux surfeurs, quand ils sont sur le haut de la vague, de se repérer par rapport...
Voilà, c'est exactement comme quand on dit la grande ours, alors qu'évidemment il n'y a pas d'ours dans le ciel, mais c'est toutes ces nominations qui font que l'être humain permet de se repérer dans l'infini.
Alors, maintenant, vous allez nous lire un petit passage, justement, qui donne, je pense, à voir, à sentir la force de la vague.
Oui, alors c'est un passage, justement, qui met en scène cette puissance de la vague et de l'océan aussi. Il fit sourire Hiro, qui se mura ensuite dans le silence. Il se concentrait sur la vague et se demandait s'il serait seul au pic. Il avait revêtu un haut en néoprène rouge, dont l'odeur promettait l'extase proche, ou l'hôpital. Mais il l'aimait plus que tout. Ce haut agissait comme le home du chevalier. L'enfilé, c'était accepter de se jeter dans la mêlée et d'affronter. Quoi ? Seul l'océan le savait. Teahupo choisirait. Sa planche était déjà waxée. Il l'avait frottée avant de partir, car se préparait débuter à terre. Une forme de rituel, une mise en condition qui programmait son esprit bien avant qu'il ne fasse corps avec la vague. Hiro regarda les montagnes défiler. Les nuages assombrissaient les pentes couvertes de fougères et le rhinocéros, la forme de la montagne en face de la passe de Hawaii, paraissait plus féroce. Puis, il pivota vers l'horizon. La houle était de sud-ouest, et il savait très bien ce que cela signifiait. Il lui faudrait être plus attentif à ce que Teahupo pouvait lui envoyer. La houle de sud était plus propre. La vague devenait alors un vrai métronome. Mais il était prêt. Il fit signe à Lascar, se jeta à l'eau et rama vers le line-up. Lascar vit la planche blanche zébrée de bleu rejoindre sa drogue liquide pour recevoir sa dose d'adrénaline. Il réalisa que la taille des planches avait beaucoup évolué depuis ses débuts. Il y avait presque 30 ans. 30 ans, il venait de calculer. Le choc fut brutal. Satané rouleau compresseur du temps. À 5 ans, il montait sur un skate en plastique. À 9, il virait palmipède et s'allongeait dans l'eau sur une biscotte. À 15, il s'atonnait au longboard. Et à 19 ans, il s'engageait dans la marine nationale sur la frégate Tourville avec pour baptême la tempête de 99 et des vagues de 25 mètres. Il se souvenait d'avoir prié. Oh, pas une prière dans les formes, non. Une vague géante avait mis le bateau sur la tranche et tout avait salué, hommes et objets. Il s'était pris une bonbonne d'oxygène sur le crâne. Alors oui, il avait prié. Je veux revoir une prairie. Si je reste en vie, je trouve une vache, je l'embrasse et je lui roule une pelle. Voilà à quoi ressemblait une prière de Lascar. La vache s'en souvenait. Il en avait vomi d'adrénaline. À bien y réfléchir, c'était la formation idéale pour que son bateau ne finisse pas en pièces détachées sur le rift à Teahupo'o. À une centaine de mètres du rivage, Hiro n'avait pas le temps pour les souvenirs. Il vivait l'instant présent. Avec sa planche 6-1, rageusement incisive, là où il aurait eu du 7-2 auparavant. Les surfeurs recherchaient aujourd'hui les figures. Taper un aérial, en plus de shooter du Teahupo'o, de 2 mètres, 2 mètres 50, était leur but. Une petite planche les y aidait, même s'ils partaient avec moins de vitesse. Ils la rattrapaient ensuite dans la vague. Lascar se décontracta la nuque, sans quitter des yeux les lignes de houle. Lui, il restait fidèle à son dinosaure de longboard, quitte à se faire traiter d'erreur de l'évolution. Une série arriva, mais les vagues n'étaient pas parfaites. Elles cassaient trop rapidement. Hiro resta tranquille, à guetter ce que la belle daignerait lui envoyer. Grâce au début de saison, il était seul à l'eau. Il s'étonna de ne pas voir Simon Thornton sur le spot. Même si l'Australien préférait charger du gros, c'était un lefto, un homme qui n'avait pas hésité à venir habiter Teahupo'o pour vivre au plus près de son addiction, la vague du bout de la route, comme il le comprenait. Lui avait eu la chance de naître à quelques brassées du paradis. Ses moments d'intimité avec la vague, il savait les apprécier. Il devenait rare. Depuis la fameuse Millennium Wave, prise par Laird Hamilton le 17 août 2000 à Teahupo'o, cette cathédrale d'eau qui avait repoussé les limites et révolutionné le monde du surf, Hiro avait vu leur jardin secret devenir le terrain de jeu des plus grands riders. Bien sûr, cette vague était leur mine d'or. Bien sûr, elle faisait ponctuellement du bout de la route le centre du monde du surf. Mais elle changeait aussi le spot en grand Barnum dès qu'une forte houle était annoncée. Et bientôt, les bateaux s'empileraient les uns sur les autres pour que tout le monde ait sa part du spectacle. La vague avait lancé des avertissements. Des bateaux avec des juges et des photographes avaient été punaisés sur ses flancs. Il y aurait des morts si le respect ne revenait pas. Hiro devait se l'avouer. Il avait soufflé de ne pas croiser tâche sur sa vague. L'hospitalité polynésienne lui était chère et il avait le cœur sur la main. Mais Tage suscitait en lui des pulsions qu'il croyait vaincues. Il réveillait le peuple des ombres. Soudain, un set s'annonça. Teahupo'o se dressa comme un cobra.
Donc, on vient de parler de cette vague que vous aurez sans doute l'occasion de voir fin juillet. Simplement, je voulais alors vous expliquer pourquoi cette vague est dangereuse. Elle arrive en fait d'un fond extrêmement profond, d'un fond d'océan très profond, et elle se heurte à la barrière de corail qui entoure donc Tahiti, qui entoure Papeete. Hein. Et comme, si vous voulez, d'un seul coup, on passe d'une profondeur vraiment très très profonde, à un platier de corail. C'est pour ça qu'elle roule, elle se roule et qu'elle forme un espèce d'écrasoir sur le corail qui est extrêmement dangereux. Alors, une occasion pour en parler moins longuement, mais on aura l'occasion d'y revenir. IFRECOR, qui est l'organisme qui s'occupe aujourd'hui de la protection et de la gestion durable des récifs à travers le monde et qui fut créé en 1999, vient de publier son 5e programme d'action avec 3 objectifs. L'évaluation de l'état du récif mondial, la restauration avec des solutions miracle, mais surveillé. Et enfin, surtout, comment répondre à, ce quatrième phénomène de blanchissement mondial et comment le suivre, comment essayer de le comprendre. Donc, nous reviendrons sur des expériences qui ont été menées aujourd'hui pour essayer, vous savez, il y a énormément d'associations qui font de l'expérimentation et qui reproduisent des coraux, ce qu'on appelle les coraux branchus, c'est-à-dire ceux que vous avez l'habitude de voir, qui font de très belles branches de couleurs. Et ceux-là sont dans des pépinières et nous font croire qu'ils font du récif. Mais le récif, ce n'est pas ça. Le récif, ce sont souvent d'énormes boules de corail qui sont, que vous pourriez prendre pour une roche, tellement ces grosses boules, ces énormes coraux qui se sont édifiés au cours des siècles, qui forment le récif, qui forment la barrière de corail. Et ces espèces de coraux très beaux, qui correspondent à ceux que l'on trouve dans notre imaginaire et par lesquels on reproduit le corail, on arrive effectivement à les bouturer, à les planter. Mais malheureusement, dès qu'une vague de chaleur apparaît, eh bien, ils meurent. Et donc, les chercheurs, aujourd'hui, essaient de trouver des solutions pour, justement, par l'intermédiaire des coraux qui vivent en très grande profondeur, essayer de redonner de la force génétiquement au corail.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.